Et donc à pénétrer plus avant dans ce mystère de Jésus crucifié par amour, ce mystère de la croix. Alors vous savez que dans ce domaine, il peut y avoir un mauvais dolorisme, hein, qui n'est pas vraiment le sens chrétien de la croix, hein, parce que les saints aimaient la croix, non pas parce que c'est la croix, sans quoi ça s'appellerait du masochisme, hein, mais parce qu'il y a Jésus sur la croix. Et c'est la raison pour laquelle, dans la religion catholique, on ne représente sur l'autel pas la croix sans Jésus. La religion catholique, c'est la croix avec Jésus. Voilà. C'est pas juste une croix en bois, comme on voit parfois. Ah non, pardon. Alors, Saint Eugène de Masneau disait, quand on est sur la croix, c'est une grâce, il faut y rester. Alors ça, quand on entend ce genre de choses, c'est toujours un peu difficile, mais voilà, quand on est sur la croix, c'est une grâce, il faut y rester. Alors Saint Alphonse Liguori, lui, disait à ses missionnaires, vous parlerez de la croix, c'est-à-dire de l'amour que Jésus nous a témoigné en mourant pour nous sur la croix. Et le rôle de saint Alphonse Liguori au XIXe siècle, ça a été justement de reconquérir les âmes refroidies par le jansénisme. Mais encore une fois, hein, vous parlez de la croix, c'est-à-dire de l'amour que Jésus nous a témoigné en mourant pour nous sur la croix. Et Marthe Robin, hein, vous connaissez cette grande mystique qui est morte en 1981, disait, s'il y a bien quelqu'un qui a connu la souffrance, c'est Marthe Robin. Hein, Marthe Robin, la souffrance, elle l'a connue. Elle revivait tous les vendredis la passion de Jésus. Mais elle a eu cette parole qui est importante. Attention, ce n'est pas la souffrance qui compte, mais c'est l'amour. Ce n'est pas la souffrance de Jésus qui nous a sauvés. C'est l'amour avec lequel Jésus a vécu sa souffrance. Et ça, c'est important. Alors, pour mieux comprendre cet amour de Jésus, eh bien, il faut étudier le sanctuaire. Il faut contempler le sanctuaire. Et se souvenir de ce qu'est ce supplice terrible de la croix. Hein ? À l'époque du Christ, évidemment, les gens connaissaient le supplice de la croix. Ils savaient ce que c'était. Ils l'avaient vu, ils le voyaient. Et donc, c'était tellement horrible que dans les premiers siècles de l'Église, on n'a jamais représenté Jésus sur la croix. C'était tellement horrible qu'on n'y arrivait pas. Et quand on a commencé à représenter Jésus sur la croix, c'était toujours un Jésus glorieux. C'était des croix glorieuses. Hein, et c'est qu'au bout de nombreux siècles, on a fini par arriver à représenter Jésus souffrant sur la croix. Hein, Cicéron disait de la croix, c'est teterimum, hein, et crudelissimum supplicium. Hein, c'est la torture, le supplice le plus terrible et le plus cruel. Hein. Alors, comment le Christ, qu'est-ce que le supplice de la croix? Donc, je me suis inspiré pour ça de ce livre qui est très beau, qui n'a pas pris une ride. Hein, il a été écrit en 1948 par un chirurgien de la clinique Saint-Joseph à Paris, La Passion selon le chirurgien. Passion de Jésus-Christ. Donc il étudie anatomiquement la passion avec toute sa science médicale, mais avec sa foi catholique, vous ne pouvez pas lire ça sans pleurer. Hein. Pie XII l'a lu, il pleurait. Enfin, c'est une contemplation dans la foi et avec toute la science médicale des souffrances du Christ. La croix n'était pas une croix gigantesque comme on présente dans certains films ou certaines peintures. C'était une croix très vraisemblablement la croix basse, crux humilis, qui faisait 2 mètres de haut. C'était en fait un poteau qui était fixe. Le Christ n'a pas porté toute la croix. Hein, d'habitude, les condamnés portaient juste le patibulum, hein, la barre supérieure, les mains. Donc il a porté vers le lieu du supplice. Hein, et le Christ, on les attachait à cette poutre qui faisait déjà 50 kilos. Hein, de toute façon, c'était impossible de porter la croix totale. On leur attachait les poignets, mais évidemment Jésus, les bourreaux se sont bien rendus compte qu'il était inoffensif, qu'il n'aurait pas de réaction, et donc ils l'ont laissé porter la croix sans avoir les mains attachées. Ça se voit sur le sanctuaire, dans le dos, on voit les marques, hein, de la poutre, et c'est des marques qui ne sont pas symétriques, donc on voit que le Christ a porté la poutre, non pas comme les autres, mais avec les mains libres. Donc il portait la poutre, et une fois arrivé au lieu du supplice, on les mettait par terre, on les crucifiait aux deux poignets, donc non pas ici, parce qu'évidemment ça s'arrache, mais ici, au niveau du carpe. Et après, la personne se relevait. Et c'est aussi pour ça que les croix n'étaient pas très hautes, faisaient 2 mètres. Et puis on fixait avec un tenon mortaise, tout simplement. Hein. Donc ça faisait une croix en taux, mais non pas une croix comme ça, mais une croix en taux. On fixait la partie haute. Hein, et puis après, avec quelques clous, on rajoutait le titulus, le ineri, hein, Iesus Nazareus Rex Iudaeum. Et puis on clouait le pied, les pieds. Cette crucifixion était précédée systématiquement d'une flagellation sur une colonne. Et dans le cas du Christ, on le voit avec le Saint-Suaire, le Christ a été flagellé au-delà des fameux 40 coups. Vous savez que les Juifs, eux, ne donnaient que 40 coups de fouet parce qu'ils considéraient qu'au-delà, la personne pouvait mourir. Et les Romains n'avaient pas cette limite. Et quand on compte sur le linceul, les coups du Christ, on compte 60 coups. Et chaque coup, c'est une double lanière avec des osselets, une espèce de petite haltère de 3 cm. Et on voit, donc on peut compter, on compte entre 100 et 120 impacts, donc vous divisez par 2, ça fait 60 coups. Donc rien que ça, ça c'était un supplice qui aurait pu, qui aurait dû faire mourir Jésus. Donc il a eu déjà ce supplice terrible. Sachant qu'avant cela, il ne faut pas oublier qu'il a eu, on en reparlera tout à l'heure, la perte de sang à l'agonie. Il a perdu du sang à l'agonie. Le portement de croix, je vous l'ai expliqué ce que c'était. D'ailleurs, la réflexion de notre Seigneur à Pierre, un jour quelqu'un t'étendra les mains et te ceindra pour t'amener là où tu ne veux pas. C'est une allusion au supplice de la crucifixion que Pierre va vivre. Pierre a étendu ses bras sur la croix pour être chargé de la croix et a été conduit avec une corde à son supplice. Alors, qu'est-ce qui faisait finalement que le condamné mourait par ce supplice? Alors tout d'abord, ce qui est important de préciser, c'est que, parce que certains pourraient le penser, contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'y a pas d'anesthésie par la souffrance. Le docteur Barbet dit « Des chocs douloureux en série ne s'additionnent pas, mais dans une certaine mesure se multiplient. Une série d'excitations abaisse le seuil de la réaction. » Ça veut dire que tout ce qu'a subi le Christ, ça ne l'a pas insensibilisé, au contraire. Chaque nouvelle souffrance le rendait encore plus sensible à la souffrance suivante. Sachant que, je vous le disais, la veille, il y avait déjà eu cette perte de sang qui crée une chute de la résistance vitale par hémorragie. Donc Saint-Luc dit « Sa sueur devint comme des gouttes de sang, des caillots de sang qui tombaient à terre. » Et alors ça, on le sait maintenant par expérience, hélas, on sait ce qu'est ce phénomène. Ce phénomène, il a été observé dans les camps de concentration avec certains prisonniers qu'on allait torturer. Lorsque le seuil de la peur atteint, le seuil de l'angoisse atteint des extrêmes, eh bien, il peut arriver que les capillaires superficiels de la peau, en dessous de la peau, cèdent, ils éclatent sous l'angoisse. Et ils se mêlent à ce moment-là à la sueur, parce que du coup, en se dilatant, ils compriment les glandes qui fabriquent la sueur, qui du coup fabriquent de plus en plus de sueur, et la sueur se mêle à ce sang, et du coup, c'est ce qui fait que la personne transpire quelque chose où la sueur se mêle au sang. Et le docteur Barbet dit que le Christ a beaucoup perdu de sang, déjà rien qu'à l'agonie. Et donc ça a profondément ébranlé sa résistance vitale, dès le jeudi saint. Après ça, après cette agonie, où le Christ a perdu tout ce sang, il y a bien sûr la nuit, avec les jugements et les coups de la soldatesque. Et là aussi, si vous voulez, parfois certaines traductions ne sont pas très fidèles. Quand on dit « il lui donnait des gifles, des soufflets », c'est une mauvaise traduction. Hein, le terme à la passe, hein, en latin, signifie aussi bien et d'abord coup de bâton. Et d'ailleurs, on voit bien que chez un des évangélistes, hein, qui utilise le même terme, lui, c'est très clair que c'est coup de bâton qu'il veut dire. Donc ça veut dire, si vous voulez, il faut s'imaginer que Jésus a été passé à tabac. Jésus a été passé à tabac la nuit du jeudi au vendredi saint. Et ça se voit précisément, hein, sur le visage du Christ. Alors là, c'est de loin, bien sûr, mais il y a une contusion, hein, sur la joue droite qui est très marquée. Et également, l'arête cartilagineuse du nez est cassée. Donc, ils lui ont cassé le nez. Hein, donc, le Christ a été roué de coups, mais gravement. Hein, gravement. Donc, après ça, la flagellation, je vous ai dit un petit peu ce que ça représente. Hein, c'est quelque chose dont on a peine à se rendre compte. Hein, parce qu'aujourd'hui, on n'a plus vu ce genre de supplice. Hein. Mais un seul coup de fouet violent, ça peut vous mettre par terre. Le Christ en a eu 60. Sur tout le corps. Hein. Dans le Saint-Suaire, il était nu quand il a été flagellé. Et on voit bien, les coups sont de la tête aux pieds. Comme le dit Isaïe, « A planta pelis usque adverticem capitis, non est sanitas ineo. » Hein, de la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, il n'y a rien, plus rien de sain en lui. Hein, plus rien de bonne santé sur son corps. Hein. Et c'est ce qui explique, hein, tout cet effondrement physique à travers la perte de sang à l'agonie, la nuit où il n'a pas dormi, la nuit où il était roué de coups, la flagellation, qu'il y ait eu besoin de Simon de Cyrène. Hein. Normalement, il n'y avait pas besoin de quelqu'un pour porter la poutre, mais le Christ, déjà, n'en peut plus. Et il faut que Simon de Cyrène porte la poutre. Hein. Mais ceci ne suffit pas à expliquer la cause même, hein, de la mort du Christ. Hein, et finalement, qu'est-ce qui fait, hein, qu'est-ce qui fait qu'on meurt sur une croix? Eh bien, c'est l'asphyxie. Hein, c'est l'asphyxie. La cause déterminante, c'est l'asphyxie. Parce qu'en fait, si vous voulez, là aussi, le docteur Barbé cite des cas tragiques de la Seconde Guerre mondiale dans les camps de concentration allemands, hein, où donc des prisonniers ont témoigné de supplices qu'ils avaient vus. Hein, où justement le supplice consistait à étendre une personne par les mains, donc ses pieds ne touchant pas terre, ou à peine juste le bout des pieds, hein, et en fait, au bout de 10 minutes, si on n'arrête pas, c'est absolument terrible, parce que la personne, du fait qu'elle a cette position-là, tout son poids tire sur les muscles, si on est, donc très très vite, elle se retrouve en situation de crampe. Et Dieu sait, on a tous eu des crampes, c'est extrêmement douloureux une crampe. Si vous ne détendez pas tout de suite, c'est terrible. Et donc, la personne se met en tétanie, c'est-à-dire finalement, tous les muscles sont en situation de crampe. C'est quelque chose d'absolument terrible. Hein. Et notamment, bien sûr, les muscles, donc c'est ce qu'a vécu le Christ, hein, tout le poids, hein, tombe. Et donc, le problème, c'est que, du coup, les muscles qui tiennent les poumons ne peuvent plus respirer non plus, ne peuvent plus faire leur rôle d'inspiration, d'expiration. Et donc, la personne s'asphyxie. Et la seule manière, et ça c'est terrible quand on y pense, la seule manière dont elle va pouvoir s'en sortir, si vous voulez, pouvoir respirer, retrouver un peu d'air, eh bien ça va être, bien sûr, de tirer sur les bras. Et là, c'est là où c'est atroce, et c'est là où Cicéron dit c'est le plus cruel des supplices, c'est que sur ses bras, à l'endroit où il y a le clou, il y a un nerf. Et ça, le docteur Barbé insiste beaucoup là-dessus, c'est le nerf du tronc médian. Il dit que c'est un nerf extrêmement sensitif, et donc à chaque fois que le Christ tire sur les bras pour pouvoir respirer, eh bien il y a une douleur mais fulgurante qui remonte du bras jusqu'au cerveau. C'est quelque chose d'absolument atroce et qui est tellement fort que juste après avoir fait ça, il est obligé de relâcher. Il relâche, et donc qu'est-ce qui se passe? Tout le poids de son corps retombe, et donc s'il veut de nouveau respirer, il faut qu'il retire. Ou bien qu'il pousse sur les pieds, mais c'est pareil. Parce que sur les pieds, il pousse sur un clou. Donc c'est absolument atroce. Et en fait, la passion du Christ, il faut se rendre compte ce que c'est. C'est une alternance de mouvements où le Christ est tétanisé, est pendu, tout son poids est bloqué, asphyxié, et la tête qui se... Je vais vous lire quelques passages. qui est prête à exploser, et puis une alternance où le Christ tire, et là c'est une douleur fulgurante dans les bras, pour pouvoir respirer un peu, en permanence, une alternance. Vous imaginez ça pendant 3 heures. Et en fait, de quoi meurt la personne? Elle meurt du fait qu'au bout d'un moment, elle a plus la force. Elle a plus la force, tout simplement, quoi, de tirer sur les bras, quoi. C'est trop, quoi, elle peut plus. Hein. Or, l'inspiration, c'est là où c'est vraiment, c'est diabolique d'avoir inventé un supplice pareil. C'est que l'air, l'inspiration, c'est vital, c'est tellement vital que c'est un réflexe quasi incompressible. Donc, si vous voulez, la personne, même si ça fait atrocement mal de tirer sur les poignets où il y a les nerfs médians, elle ne peut pas ne pas tirer. Parce que c'est un réflexe, vous avez tellement besoin d'air que finalement vous tirez quand même. Vous faites la traction, même si ça vous crée une douleur absolument atroce. Jusqu'au moment où vous n'avez plus la force de le faire, quoi. Hein, mais là, vous lâchez, et au bout d'un moment, vous finissez par mourir complètement asphyxié. Hein, je crois que c'est. Si vous voulez, il ne s'agit pas justement de tomber dans un faux dolorisme, mais je crois qu'il faut se rendre compte de ce que c'est. Hein. Il faut se rendre compte de ce que c'est. Lorsque Jésus a dit à Saint Angèle de Foligno, ce n'est pas pour rire que je t'ai aimé. Ben, on comprend ce qu'il veut dire. Ce n'est pas pour rire que Jésus nous a aimés. Toute l'agonie se passait donc dans une alternative d'affaissement et de redressement, d'asphyxie et de respiration. Et nous voyons cela sur la double coulée sanguine verticale qui sort du trou de la main avec un écartement angulaire de quelques degrés. On voit qu'il y a effectivement une double trace de sang selon que le Christ était en position le corps s'affaissait ou bien en position de tirer. L'une correspond à la position d'affaissement et l'autre à l'effort de relèvement. Après une heure de suspension, ces tractions deviennent de plus en plus fréquentes et en même temps de plus en plus faibles. L'asphyxie s'installe progressive et définitive. La peau devient violette, une sueur profuse apparaît sur tout le corps, coulant à terre et tachant le sol. Elle est surtout extraordinairement abondante dans les quelques minutes qui précèdent la mort. Les cheveux et la barbe sont littéralement trempés. Je vous lis ce qu'il écrit sur la douleur des mains, des poignets. Les dissections m'ont révélé que le tronc du nerf médian était toujours gravement lésé par le clou. Si elle fait donc des expériences avec des cadavres, sectionné, le tronc du nerf médian était sectionné, broyé au tiers, à moitié ou aux deux tiers, suivant les cas. Mais toujours dans sa partie sensitive. Jamais il n'était entièrement sectionné. Toujours les nerfs des cours abducteurs qui se détachent étaient intacts. Au contraire, le nerf médian, tendu dans sa partie externe, en recevait une excitation mécanique à chaque mouvement. Le Christ a donc dû agoniser, mourir et se fixer dans la rigidité cadavérique avec les pouces opposés dans les paumes. Et c'est ce qui explique que sur le Saint-Suaire, les pouces soient comme ça, c'est mécanique. Mais hélas, les médians ne sont pas seulement des nerfs moteurs, ce sont aussi de grands nerfs sensitifs. Blessés, tendus sur les clous, dans ses bras étirés, comme des cordes de violon sur leur chevalet. Ils ont dû provoquer des douleurs atroces. Le nerf partiellement coupé, tendu sur le clou par sa portion intacte, en recevait aussi à chaque moment une violente excitation sensitive. Ceux qui ont vu pendant la guerre de s'épeler des grands troncs nerveux savent que c'est une des tortures les plus affreuses qu'on puisse imaginer. À tel point que sa prolongation serait incompatible avec la vie s'il ne s'établissait une sorte d'inhibition, le plus souvent, elle entraîne la syncope. Or, notre Seigneur, Dieu homme, capable de pousser à ses extrêmes limites la résistance physique, a continué à vivre et à parler jusqu'au consummatum est pendant environ 3 heures. Et Marie, sa mère, était là, au pied de la croix. Et dire que Jésus n'a pas voulu prendre, avant la passion, enfin, avant la crucifixion, il n'a pas voulu prendre le mélange analgésique. La potion analgésique est vin mêlé de myrrhe et de fiel qui avait pour but d'atténuer un peu les souffrances. Il a voulu souffrir sans atténuation. Et je vais terminer par le récit que fait le docteur à la fin. Après avoir expliqué scientifiquement les choses, il fait une espèce de méditation finale. Donc il explique comment le bourreau met d'abord le premier clou, puis le deuxième, donc à terre, le Christ est à terre. Un aide allonge l'un des bras à la paume. Le bourreau prend son clou, un long clou pointu et carré, qui près de sa grosse tête est large de 8 mm. Il le pique sur le poignet, dans ce pli intérieur qu'il connaît d'expérience. Un seul coup de son gros marteau, et quelques autres coups le fixent solidement. Jésus n'a pas crié, mais son visage horriblement s'est contracté. Mais surtout, j'ai vu au même instant son pouce, d'un mouvement violent, impérieux, se mettre en position dans la paume. Signe que son nerf médian a été touché. Mais alors, je ressens ce qu'il a éprouvé. Une douleur indicible, fulgurante, qui s'est éparpillée dans ses doigts, a jailli comme un trait de feu jusqu'à son épaule et éclaté dans son cerveau. C'est la douleur la plus insupportable qu'un homme puisse éprouver, celle que donne la blessure des gros troncs nerveux. Presque toujours, elle entraîne la syncope et c'est heureux. Mais Jésus n'a pas voulu perdre connaissance. Encore si le nerf était entièrement coupé. Mais non, j'en ai l'expérience. Il n'est que partiellement détruit. La plaie du tronc nerveux reste en contact avec ce clou. Et sur lui tout à l'heure, quand le corps sera suspendu, il sera fortement tendu comme une corde à violon sur son chevalet. Et il vibrera à chaque secousse, à chaque mouvement, réveillant la douleur horrible. Il en a pour 3 heures. L'autre bras est tiré par l'aide. Les mêmes gestes se répètent, c'est les mêmes douleurs. Mais cette fois, songez-y bien, il sait ce qui l'attend. Allons debout, le bourreau et son aide empoignent les bouts de la poutre et puis le reculant, l'adosse au poteau. Mais c'est hélas en tiraillant sur ses deux mains clouées. Oh, c'est médian. D'un grand effort à bout de bras, mais le stipès, donc la barre, n'est pas très haut. Rapidement, car c'est bien lourd, ils accrochent d'un geste adroit le patibulum en haut du stipès. À son sommet, quelques clous fixent le titulus écrit en 3 langues. Le corps, tirant sur les bras qui s'allongent obliques, s'est un peu affaissé. La nuque qui dominait le patibulum l'a heurté en passant. Les pointes acérées du grand chapeau d'épines ont déchiré le crâne encore plus profond. Sa pauvre tête penche en avant car l'épaisseur de sa couronne d'épines l'empêche de reposer sur le bois. Et à chaque fois qu'il redresse la tête, il en réveille les piqûres. Un peu plus loin, et cela vient de commencer. Mais au bout d'un moment, un phénomène étrange se produit. Les muscles de ses bras se raidissent d'eux-mêmes en une contracture qui ira s'accentuant. Ses deltoïdes, ses biceps sont tendus et saillants. Ses doigts s'incurvent en crochets, des crampes. Vous avez tous peu ou prou senti cette douleur progressive et aiguë dans un mollet, entre deux côtes, un peu partout. Il faut tous à faire ses sens détendre en allongeant ce muscle contracté. Mais regardons, voici maintenant aux cuisses et aux jambes les mêmes saillies monstrueuses, rigides. On dirait un blessé atteint de tétanos, en proie à ces horribles crises que l'on ne peut pas oublier. C'est ce que nous appelons la tétanie, quand les crampes se généralisent. Les muscles du ventre se raidissent en vagues figées, puis les muscles du cou et les muscles respiratoires. Son souffle peu à peu est devenu plus court, superficiel. L'air entre en sifflant mais ne sort presque plus. Il respire tout en haut, inspire un peu, ne peut plus expirer. Il a soif d'air. Sa figure pâle a peu à peu rougi. Elle a passé au violet pourpre et puis au bleu. Il asphyxie. Ses poumons gorgés d'air ne peuvent plus se vider. Son front est couvert de sueur. Ses yeux exorbités chavirent. Quelle atroce douleur doit marteler son crâne. Eh bien, tant mieux. N'a-t-il pas donc assez souffert? Que se passe-t-il donc? Lentement, d'un effort surhumain, il a pris point d'appui sur le clou de ses pieds. Oui, sur ses plaies. Les coups de pied et les coups de genoux s'étendent peu à peu. Et le corps par à coup remonte sous l'agent d'attraction des bras. Alors voici que de lui-même le phénomène diminue. La tétanie régresse. Les muscles se détendent, tout au moins ceux de la poitrine. La respiration devient plus ample et redescend. Les poumons se dégorgent et bientôt la figure a repris sa pâleur d'avant. Et là c'est très beau. Pourquoi tout cet effort? C'est qu'il veut nous parler. Mon Père, pardonnez-leur. Et ça, c'est très beau. Il fait remarquer que les 7 paroles du Christ en croix ont coûté au Christ des souffrances particulières. À chaque fois qu'il a voulu me parler, il a dû faire cet effort atroce de tirer sur les bras et appuyer sur ses pieds. Oui, qui nous pardonne à nous qui sommes ses bourreaux. Mais au bout d'un instant, son corps commence à redescendre et la tétanie va reprendre. Et chaque fois qu'il parlera, chaque fois qu'il voudra respirer, il faudra se redresser en tenant debout sous le clou de ses pieds. Et chaque mouvement retentit dans ses mains en douleur indicible. Ô Seigneur médiant, c'est l'asphyxie périodique du malheureux qu'on étrangle et qu'on laisse reprendre vie pour l'étouffer plusieurs fois. À cette asphyxie ne peut échapper pour un moment qu'au prix de souffrances atroces et par un acte volontaire. Et cela va durer 3 heures. Mais mourez donc, mon Dieu. Et là, c'est la fin. Bientôt 3 heures. Enfin, Jésus lutte toujours. De temps en temps, il se redresse. Toutes ses douleurs, sa soif, ses crampes, l'asphyxie, les vibrations de ses deux nerfs médians ne lui ont pas arraché une seule plainte. Mais si ses amis sont bien là, son Père, et c'est l'ultime épreuve, son Père semble avoir abandonné. Mon Père, pourquoi m'avez-vous abandonné ? Il sait maintenant qu'il s'en va, il crie « Consumatum est », tout est consommé. Puis de nouveau se redressant, et comme pour nous faire entendre qu'il meurt de par sa volonté, poussant de nouveau un grand cri, il dit « Mon Père, je remets mon âme entre vous. » Voilà, pardonnez-moi d'avoir été un peu long dans cette lecture, mais je crois qu'il le faut pour comprendre ce qu'est le mystère de la croix. Et face à cela, saint Jean va dire « Enos credidimus caritas, nous, nous avons cru à l'amour. » Pourquoi Jésus a-t-il voulu autant souffrir ? Il aurait pu nous souffrir, il aurait pu nous sauver sans souffrir autant. Saint Thomas d'Aquin dit que le Christ aurait pu faire un petit geste de se baisser pour ramasser une épingle par terre, ça avait une valeur infinie, qui aurait suffi à nous sauver. Pourquoi il a voulu souffrir autant ? Eh bien, l'unique raison de cela, c'est pour que nous croyions à son amour. C'est le cri de saint Jean, « Enos credidimus caritas », et nous avons cru à l'amour. C'est pour ça que rien ne fait tant plaisir à Jésus que de méditer sa passion, car c'est la grande manifestation de son amour. Et c'est pour ça que Jésus se plaint à Marguerite Marie à la Coque. L'amour n'est pas aimé, dira saint Jean de la Croix. Et à Marguerite Marie à la Coque, voici ce cœur qui a tant aimé les hommes et qui n'a rien négligé pour leur montrer son amour. Dans les dialogues de sainte Catherine de Sienne, sainte Catherine, donc, qui a parlé avec le Christ, lui dit « Hélas, doux agneau immaculé, tu étais mort quand ton côté fut ouvert. Pourquoi donc as-tu voulu que ton cœur fût frappé et brisé ?» Et Jésus lui répond « J'avais plusieurs raisons, et je vais te dire la principale. C'est que mon désir du genre humain était infini, alors que les tourments et les souffrances que j'endurais étaient finis. Aussi n'est-ce point avec ce qui est fini que je pouvais vous montrer tout l'amour que j'avais pour vous, puisque mon amour était infini. Je voulus donc, en vous montrant mon côté ouvert, que vous voyiez le secret du cœur, afin que vous voyiez que j'aimais beaucoup plus que je ne pouvais le montrer avec ma souffrance finie. » Voyez, il faut faire attention au nietzschéisme. Le nietzschéisme, cette doctrine qui essaie de nous faire croire que ne peut être mise en honneur que la force brutale. Nietzsche reprochait justement au christianisme d'avoir exalté la faiblesse du Christ. Et il dit « Moi, je veux une religion de forts. Je veux une religion de gens forts, pas une religion de gens faibles. » Eh bien, nous continuons de dire avec saint Paul « Deus elegit infirma ut confundat fortia ». Dieu a choisi ce qu'il y a de faible pour confondre ce qui est fort. Et saint Paul, c'est le grand prédicateur du salut par la croix. Il écrit ceci dans la première épître aux Corinthiens, au chapitre 1, verset 17. « Ce n'est pas pour baptiser que le Christ m'a envoyé, c'est pour prêcher l'Évangile, non point par la sagesse des paroles, afin que la croix du Christ ne soit pas rendue vaine. En effet, la doctrine de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une force divine. Car il est écrit, je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai la science des savants. Où est le sage? Où est le docteur? Dieu n'a-t-il pas convaincu de folie la sagesse du monde? Car le monde, avec sa sagesse, n'ayant pas connu Dieu, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Les Juifs exigent des miracles, les Grecs cherchent la sagesse. Mais nous, nous prêchons un Christ crucifié. Scandale pour les Juifs, folie pour les païens. Mais pour ceux qui sont appelés, soit Juifs, soit Grecs, il est puissance de Dieu et sagesse de Dieu. Car ce qui serait folie de Dieu est plus sage que la sagesse des hommes, et ce qui serait faiblesse de Dieu est plus fort que la force des hommes. Et puis après, il continue en disant, mais regardez parmi vous, regardez votre vocation, mes frères. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, au sens des puissants de ce monde. Mais ce que le monde tient pour insensé, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les sages. Et ce que le monde tient pour rien, c'est ce que Dieu a choisi pour confondre les forts. Et Dieu a choisi ce qui dans le monde est sans considération et sans puissance, ce qui n'est rien, pour réduire au néant ce qui est, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Et plus loin au chapitre 2, moi aussi mes frères, lorsque je suis venu chez vous, ce n'est pas avec une supériorité de langage ou de sagesse que je suis venu vous annoncer le témoignage de Dieu, car je n'ai pas jugé que je dusse savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Mais c'est dans la faiblesse, dans la crainte, avec un grand tremblement que je me suis présenté chez vous. Et ma parole, ma prédication n'avait rien du langage persuasif de la sagesse, mais l'Esprit-Saint, la force de Dieu, en démontrait la vérité, afin que votre foi repose non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Et lorsque Paul assailli par les tentations, on pense que c'est tentation de la chair, se plaint à Dieu et lui demande de le délivrer. Le Christ lui répond, ma grâce te suffit car c'est dans la faiblesse que ma puissance se montre tout entière, se révèle. Et Paul conclut, je préfère donc bien volontiers me glorifier mes faiblesses afin que la puissance du Christ habite en moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans le mépris, les nécessités, les persécutions pour le Christ. Car lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. Il faut avoir vécu ça, si vous voulez. Il faut passer par là. Oui, il faut que les difficultés de la vie, un jour ou l'autre, les épreuves, ça peut être de toutes sortes, nous fassent éprouver, voyez-vous, cette faiblesse. Il faut qu'à un moment, on se retrouve par terre. Par terre. Pour pouvoir expérimenter dans notre chair, dans notre âme, en profondeur, que c'est quand, lorsque je suis faible que je suis fort. Parce qu'à ce moment-là, c'est plus moi qui agis, c'est le Christ qui agit en moi. Et la contemplation du Christ crucifié n'est pas une contemplation neutre. On ne regarde pas le Christ crucifié comme on contemple un tableau inanimé. Elle tend par elle-même, cette contemplation, à l'assimilation, à la ressemblance, à l'imitation. Parce que le baptême, encore une fois, nous a marqués, a fait de nous d'autres Christ. De par le baptême, il y a déposé en notre âme un dynamisme, si vous voulez, qui, si nous n'imitons pas de frein, ce dynamisme inhérent, qui est ontologique, métaphysique, si vous voulez, qui est dans notre âme, par notre saint baptême, ce dynamisme fera, si on n'y met pas d'obstacle, que nous serons rendus de plus en plus semblables à Jésus. C'est métaphysique, si vous voulez. Parce qu'il y a ce principe actif en nous, si vous voulez. Et si on n'y met pas de frein, ça nous fera ressembler de plus en plus à notre Seigneur Jésus-Christ, dans sa passion et dans sa gloire. Et dès lors, Jésus n'a qu'un but, c'est nous rendre sans cesse plus ressemblants à lui, y compris dans sa passion, dans son amour. Comme dit saint Jean, à ceci nous avons connu l'amour, c'est que celui-là a livré sa vie pour vous, pour nous. Nous devons donc, à notre tour, livrer notre vie pour nos frères. Et donc Guérin, un des auteurs qui a le mieux écrit, il n'a pas beaucoup écrit sur la question de la souffrance, il faut chercher ces passages un peu épars dans ses ouvrages. Dans le silence cartusien, il y a quelques passages qui sont très beaux là-dessus, sur le thème de la souffrance. Il dit, la raison ultime de toute souffrance, c'est de nous rendre plus semblables à Jésus-Christ. Parce que si vous voulez, il y a un moment où il faut parler clair, la grande question qui nous habite tous, un jour ou l'autre, c'est la question de la souffrance. On ne peut pas faire l'économie d'affronter cette question-là. une contemplation purement extérieure qui ne nous changerait pas, ne serait pas une vraie contemplation. Je vais vous lire donc Iran, cet auteur que je vous citais tout à l'heure, de Silence cartusien. Il dit: le grand danger pour beaucoup d'âmes est de regarder la vie, de la penser et de goûter cette pensée sans la vivre. Il faut pratiquer ce qu'on croit, réaliser ce qu'on pense, vivre ce qu'on aime, sous peine d'aborder à une contemplation paresseuse qui est le plus commun des états d'âme et l'une des pires misères. Sainte Thérèse Couder dira: Dieu bouleverse le monde rien que pour rendre une âme plus sainte. Dieu bouleverse le monde rien que pour rendre une âme plus sainte. C'est pour ça, voyez-vous, une âme qu'il faut... Bien sûr, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir peur de la souffrance. Bien sûr, on a tous peur de la souffrance. Le Christ a eu peur de la souffrance. Les saints ont eu peur de la souffrance. Personne. Mais... si vous voulez, il faut quand même comprendre que c'est par la souffrance qu'on donne la vie. Je vous cite ce passage qui est un des plus beaux passages de la Sainte Écriture. C'est encore une fois, c'est Saint Paul. C'est 2 Corinthiens, chapitre 4, verset 12. C'est tout ça extraordinaire. Ainsi, la mort agit en nous et la vie en vous. Donc il dit, voilà, la mort agit en moi, dit-il. Mais parce qu'elle agit en moi, la vie agit en vous. Animé du même esprit de foi, selon ce qui est écrit, j'ai cru et c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi nous croyons et c'est pourquoi nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous présentera à lui avec vous. Car tout cela se fait à cause de vous, afin que la grâce, en se répandant avec abondance, fasse abonder l'action de grâce d'un plus grand nombre à la gloire de Dieu. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Au contraire, alors même que notre homme extérieur dépérit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car notre légère affliction du moment présent produit pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Nos regards ne s'attachent point aux choses visibles, mais aux invisibles. Car les choses visibles n'ont qu'un temps, les invisibles sont éternelles. Et vous le savez, par la maternité douloureuse, vous êtes à même de comprendre facilement cette loi surnaturelle que c'est de la mort que surgit la vie. La femme perd un petit peu de sa santé à chaque enfantement, et donc elle est vraiment à même de comprendre cela. Je voudrais vous lire un texte de Fabrice Hadjadj qui parle de Marie et qui en tire une conclusion sur ce que doit être une mère chrétienne par rapport à ses enfants. Celle, donc la Sainte Vierge, qui n'avait pas souffert les douleurs de l'enfantement à l'heure de la nativité, souffre à présent les douleurs de tous les enfantements de tous les hommes à la grâce. Son fiat au moment de l'Annonciation, en disant explicitement oui à tout l'inattendu de Dieu, disait aussi oui de manière implicite à ce gouffre. En laissant le Verbe prendre chair de sa chair, elle donnait à Dieu la capacité de souffrir dans une âme et un corps d'homme. Dans la dernière strophe de sa berceuse de la Mère Dieu, la poétesse Marie-Noël lui prête cette plainte douloureuse. « De mort, ô mon Dieu, vous n'en aviez pas pour sauver le monde. Ô douleur, là-bas, ta mort d'homme, un soir, noir, abandonné, mon petit, c'est moi qui te l'ai donné. » Voilà comment Marie est mère de la vie, en consentant à la croix de son enfant. D'autres, sans doute, dans le pressentiment d'un destin aussi terrible, auraient demandé d'avorter. Beaucoup, sur le Golgotha, auraient rêvé d'une piqûre inoculant le décès prompt et indolore de leur progéniture. Elles sont les mères de notre culture de mort qui tuent par peur du sacrifice. L'enfantement est une joie, mais aussi une responsabilité et un risque. Marie le rappelle de la manière la plus forte. Donner le jour, c'est aussi exposer aux ténèbres. Donner la vie, c'est aussi donner à la souffrance et à la mort. Pour une résurrection, certes, mais qui sera celle de la joie éternelle ou de la sempiternelle enflure. Les parents ne s'ouvrent radicalement à la vie que de consentir à cette aventure à la fois tragique et bienheureuse. Ils doivent préserver au mieux leur enfant de la douleur, comme Marie et Joseph à Nazareth. Mais s'ils l'aveuglent quant à la mort, s'ils négligent de lui apprendre le poids de l'histoire et l'amour de la vérité jusqu'au don total de soi, le pauvre petit Douillet cherchera le soleil parmi les rayonnages, la vitalité dans le bio, l'héroïsme dans l'héroïne, la contemplation dans le spectacle, que sais-je. Bientôt dégoûté, ne sachant que faire de sa détresse, ignorant que les sables de son cri pouvaient cacher l'or de la prière, il demandera qu'on l'abatte, comme une vieille carne, ou videra de lui-même tous les tubes de calmant. Dès lors que l'on n'éduque pas au martyr, les caresses peuvent bien se multiplier, suaves et protectrices. Elles disposent au suicide.
C'est un texte absolument bouleversant de Fabrice Adjage, mais qui, je crois, exprime bien cette nécessité d'éduquer aux enfants, aux sacrifices.
Alors, comment réagir dans la souffrance? Je vous dirais, ne pas hésiter à pleurer un bon coup.
Ah oui. Vous
voyez, c'est pour ça aussi que j'ai choisi cette lecture de Saint François de Sales, ce matin. Au 19e siècle, au début 20e, on a beaucoup éduqué de jeunes garçons en leur disant « un homme ne pleure pas ». Pardonnez-moi, mais je trouve ça complètement débile. Complètement débile. Un homme, c'est pas quelqu'un qui pleure pas. Un homme, c'est quelqu'un qui est capable de pleurer, mais qui continue de marcher droit malgré la souffrance. Saint-François de Sales est très fort pour ça. Je suis tant homme que rien plus. Padre Pio a pleuré toutes les larmes de son corps quand sa mère est morte. Donc, Jésus a pleuré. Lorsque son ami là-bas, Lazare, est mort, Jésus a pleuré. Il a pleuré sur Jérusalem. Donc voilà, ne pas hésiter à pleurer dans les bras du bon Dieu. Et puis, accepter cette souffrance. Je ne dis pas l'accepter dans sa sensibilité. Ça ne nous est pas demandé, évidemment. Ça, c'est des personnes qui acceptent cela, mais dans sa volonté. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas blessé, mais ça veut dire qu'on fait un acte de volonté. En disant, mon Dieu, si vous permettez cela, je l'accepte. Saint François de Sales dira, plaignez-vous autant que vous voulez, mais à Jésus. Mais à Jésus. Ça, c'est très beau. Plaignez-vous autant que vous le voulez, mais à Jésus. Ce qu'il faut, c'est, voyez, ne jamais couper ce contact avec le Seigneur. Quand on souffre, mais qu'on reste branché sur lui, qu'on souffre avec Jésus, on pleure dans les bras de Jésus. On peut pleurer, on peut souffrir énormément, mais c'est avec Jésus, c'est avec la douceur de Jésus, qu'est-ce que vous voulez. Venez à moi, vous tous qui peinez, je vous soulagerai. Prenez sur vous mon fardeau, dira Jésus, Matthieu 11. Alors, ce don de soi, bien sûr, le bon Dieu n'a vraisemblablement pas nous demander de mourir martyr, encore qu'on ne sait pas, il y en aura peut-être quelques-uns qui sont venus parmi nous, mais que nous demande le bon Dieu, ce don de soi auquel il nous appelle, comment va-t-on le vivre? Eh bien, pour cela, je voudrais vous lire à nouveau Scrivers, cet auteur donc, qui a écrit le don de soi. À quoi donc? Il commente la parole du Christ qui dit « À chaque jour suffit sa peine ». D'ailleurs, c'est en lisant l'Évangile que je me suis rendu compte que c'était une parole du Christ, et non pas un proverbe. « À quoi donc se réduit cette loi universelle et absolue de se donner à Dieu ? Elle se réduit au devoir du moment présent. Une vie entière à sanctifier ? C'est l'instant actuel à consacrer à Dieu. Le passé n'est plus, l'avenir n'est pas encore, le présent seul est réel et amène avec lui un devoir. Oh, comme il est déraisonnable, ça on le fait combien de fois ? Dans l'épreuve, comme il est déraisonnable d'accabler son esprit par la perspective des millions d'actes à rapporter à Dieu. Oui. Le matin, vous êtes fatigué, après une nuit où les enfants ont beaucoup pleuré, ils disent, mais c'est pas possible, ça a duré combien d'années comme ça, Les sacrifices à renouveler sans cesse, de difficultés sans nombre à surmonter, tout cela, c'est la sainteté envisagée de manière abstraite, à travers le verre grossier de l'imagination. Père Berthaud, dans un de ses écrits, là, il dit, et c'est nous qui faisons la montagne. On additionne des trucs, alors ça fait un truc, mais comme ça, et on dit, bon, j'arriverai jamais à. Mais c'est nous qui faisons la somme. Au jour le jour, c'est pas la somme que Dieu nous demande d'affronter. C'est une difficulté. Tout cela, c'est la sainteté envisagée de manière abstraite. La réalité, la vie concrète, c'est un acte à rapporter à Dieu, un devoir à remplir, une croix à embrasser, une tristesse à supporter, un délassement à prendre sous les yeux de Dieu, une joie à partager avec lui, une soirée à passer près de lui. Réduire la sainteté à cet unique devoir actuel, c'est la rendre facile. C'est la entrer dans les vues de Dieu qui n'a pas voulu nous charger d'un fardeau impossible à porter. À chaque jour suffit sa peine, dit-il. Accumuler par l'imagination toutes les pieuses et toutes les pierres éparses sur la route qu'il faut parcourir, en faire une montagne qui barre le passage, puis se dire tristement en croisant les bras « À quoi bon entreprendre le voyage ? Jamais je ne pourrai surmonter pareil obstacle. » Tout cela, c'est se tromper à plaisir et se rendre la vie impossible. Le voyageur avisé sait bien que les pierres se rencontrent tout au long de la route, mais qu'avec un peu de bonne volonté, on peut passer sans en heurter aucune. L'imagination rend aux âmes de détestables services. Elle leur enlève la moitié du bonheur auquel elles ont droit et empoisonne le reste. Elle rappelle les douleurs du passé, elle en intensifie l'amertume. L'avenir hante déjà ses âmes par des craintes chimériques. Allez, parfois, c'est... Comment je vais faire dans 3 ans comme un jeune. Comment je vais faire dans 3 ans pour complètement paniquer. Doucement, c'est dans 3 ans, quoi. Hein, parfois, tout d'un coup, on peut... L'avenir hante déjà ses âmes par des craintes chimériques, des espérances irréalisables, des prévisions absurdes. Devenez semblable à de petits enfants, dit notre Seigneur. Ô mon âme, redeviens enfant. Rejette tout soin du passé, toute crainte ou espérance de l'avenir. Reste près de Dieu dans le présent. Tu seras heureuse et tranquille. Tu disposeras de toute l'énergie de ta volonté, de toute l'attention de ton esprit, pour les appliquer aux devoirs présents. Le moment actuel seul compte pour toi. Il renferme seul des biens immenses. Des biens immenses. C'est un trésor hein, dans ce présent. Un trésor. Mon âme ne va pas chercher au loin la sainteté. Elle t'enveloppe de toutes parts. Toutes les créatures te l'apportent, cette sainteté. Tous les événements de la vie en sont pleins. L'air que tu respires en est saturé. Ouvre la bouche et aspire à plein poumon la sainteté. L'ordre éternel de Dieu sur toi t'est communiqué à chaque moment par tes devoirs quotidiens. Hors de là, il n'y a pour toi ni sainteté ni bonheur. Accepte-le, quelque vile que soient les espérances, les apparences sous lesquelles il se déguise. Reçois-le avec honneur. Ouvre à deux battants la porte de ton cœur. C'est l'ambassadeur de Dieu qui t'arrive. L'équipage est bien modeste, méprisable aux yeux du monde. Qu'importe, c'est Dieu qui passe. Ce qu'il t'apporte semble si peu important, contraire peut-être à ta raison, ou du moins à tes goûts. Qu'importe, c'est le divin envoyé, c'est le fils de David qui vient au nom du Seigneur. L'air que nous respirons est saturé de la sainteté que Dieu veut nous communiquer. Je terminerai cette conférence par la prière de sœur Odette Prévos, qui était petite sœur de Charles de Foucault en Algérie. Vous la connaissez peut-être, je la trouve très belle. Je l'ai trouvée sur l'agenda de ma maman. Scotcher ça sur son agenda. Vis le jour d'aujourd'hui. Dieu te le donne, il est à toi. Vis-le en lui. Le jour de demain est à Dieu, il ne t'appartient pas. Ne porte pas sur demain le souci d'aujourd'hui. Demain est à Dieu, remets-le lui. Le moment présent est une frêle passerelle. Si tu le cherches des regrets d'hier, de l'inquiétude de demain, la passerelle cède et tu perds pied. Le passé, Dieu le pardonne. L'avenir, Dieu le donne. Vis le jour d'aujourd'hui en communion avec lui. Et s'il y a lieu de t'inquiéter pour un être aimé, regarde-le dans la lumière du Christ ressuscité.